Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Les partisans du millénium avancent que Canaan a été donné à Israël pour toujours, à jamais. On est en droit de se demander si ceux qui poussent l'idée d'un don perpétuel en ce qui concerne la possession de la Palestine suivent le même processus quant à la circoncision qui, elle aussi, faisait partie d'une alliance éternelle. Le livre de la Genèse dit bien « On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. » Mais Paul, en écrivant aux Galates, met bien les choses au point en affirmant en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Un phénomène semblable se rencontre pour le sabbat. Le mot traduit par éternel, perpétuel, est également rendu par à toujours, ce qui implique une longue période indéfinie dans le temps. Mais seul Dieu et ses œuvres sont éternels dans le véritable sens du terme. En Deutéronome chapitre 33, verset 15, il est question des meilleurs produits des collines éternelles. Mais en Habacuc, chapitre 3 et verset 6, Dieu regarde et fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent. Cela pourrait constituer une étrange contradiction si le sens des mots utilisés dans la langue originale n'était parfois mal dimensionné ou mal compris. Quatre mots sont à considérer comme signifiant éternel, perpétuel, immortel, mais les nuances qu'ils expriment sont parfois très subtiles. Olam, Ad, Ayados, Ayonos sont quatre mots clés. Olam dans l'Ancien Testament est souvent rendu par Ayonos. Dans le Nouveau Testament, il signifie généralement éternel et s'applique à Dieu, sa miséricorde, son royaume et la vie éternelle des chrétiens. Figurativement, le terme peut s'appliquer aux objets de stabilité impressionnante et de longue durée comme les montagnes et les collines. Ad s'utilise d'habitude pour dire toujours, à toujours. Et les notions de limite très lointaine est impliquée. Cependant, on le traduit parfois dans un contexte d'éternité stricte, comme dans le cas des collines de tout à l'heure, qui sont éternelles, mais se brisent malgré tout. Dans l'un des deux cas, la traduction ne saisit pas absolument le sens à donner, car il est pratiquement impossible de le faire dans une traduction. Aidios répond strictement au sens éternel. Les Romains, chapitre 1, verset 20, le donne très bien en parlant des perfections invisibles de Dieu, de sa puissance éternelle et de sa divinité qui se voit comme à l'œil nu. Le 6e verset de Jude est également très juste que lorsqu'il parle des incrédules enchaînés éternellement par les ténèbres. Ici, la notion du temps n'intervient plus, tout est dépassé. Cette mise au point sommaire va nous permettre d'aborder le reste de notre entretien avec plus de clarté. Il devient maintenant évident qu'en ce qui concerne le pays de Canaan, une limitation est introduite dans le concept d'éternel lorsqu'il est question de la déclaration que fait Pierre sous l'inspiration du Saint-Esprit et dans laquelle il stipule que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Certains tentent de tourner ce genre de difficulté, ce dilemme, en lançant l'argument suivant. Le système terrestre actuel sera détruit par le feu, mais de nouveaux cieux et de nouvelles terres prendront leur place en accord avec les descriptions d'Apocalypse chapitre 20 et 21, et c'est sur cette nouvelle terre que Dieu accomplira la promesse faite à Israël. C'est là que les Juifs posséderont leur territoire et leur identité nationale distincte. Cette étrange et très commode argumentation répudie toute assertion relative à un accomplissement littéral de la promesse territoriale faite à Abraham. Tout cela est trop facile, et en fait assez bête. Jérémie a sans aucun doute possible prophétisé un rétablissement d'Israël lorsqu'il transmet le message de Dieu. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu dont je vous ai fait aller en captivité. Ceux qui aimeraient à Jérusalem par Babylone. Je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction. La fameuse promesse du rétablissement parlait de cette captivité-là. Elle s'est accomplie. Le Seigneur dit, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard une bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Une connaissance de la chronologie de l'Ancien Testament répond elle-même aux revendications basées sur certains passages qu'il serait trop long d'énumérer. Tout cela s'est accompli et n'a rien à voir du tout avec un rétablissement présent ou futur des Juifs en Palestine. Mais dit-on, Ésaïe a parlé d'une seconde restauration. Le retour de Babylone est la première et la rentrée des Juifs en Palestine avant le millénium serait la seconde. Cette théorie est basé sur Ésaïe 11:11 qui dit, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main. Le contexte de ce passage se rapporte à un rétablissement des Juifs esclaves à Babylone en Assyrie et dans d'autres nations où ils avaient été éparpillés. La première restauration est mentionnée dans le verset 16. Comme il y a eu une libération pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte, le second rétablissement de Babylone, d'Assyrie et des autres nations, les Juifs avaient été dispersés, et la seconde, rien de plus, rien de moins. Ces événements ont eu lieu, se sont déroulés il y a bien des siècles. Seule une perversion de la parole de Dieu peut tenter de prouver que ces prophéties s'accordent avec la théorie humaine du retour actuel des Juifs en Palestine. Les prophéties de Zacharie, disant entre autres des vieillards et des femmes âgées, s'assiéront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Mais tout cela s'est accompli durant la période d'Esdras, Néhémie et l'époque qui a suivi. La Bible dit que cet Esdras vint à Jérusalem de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse. Puis elle donne les chefs de famille, les généalogies de ceux qui montèrent avec Esdras de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Néhémie donne même dans le détail la répartition des nouveaux habitants entre Jérusalem et le reste des territoires. Il dit ceci, les chefs du peuple s'établiront à Jérusalem, le reste du peuple tira au sort, pour qu'un sur 10 vienne habiter à Jérusalem. La ville sainte et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. La théorie de certaines sectes veut que les Juifs retrouvent tous leur pays et se convertissent au Seigneur. Si l'établissement de la nation moderne d'Israël le 14 mai 48 est l'accomplissement de la prophétie, et si l'afflux des Juifs en Palestine et vraiment, tel que les prophètes l'ont prédit, nous nous trouvons en face d'un problème intéressant. Comment justifier ou même comprendre l'incroyance notoire qui règne en Israël, ainsi que le rejet de Jésus-Christ? Une brochure éditée il y a quelques années par l'État d'Israël dit ceci. De nos jours, 2 800 000 Juifs vivent en Palestine et dans une grande mesure font revivre nombre de caractères et coutumes historiques typiques à leur pays. Cependant, la foi religieuse de la vaste majorité des gens n'est pas vraiment juive, encore moins chrétienne. La plupart d'entre eux s'en tiennent à un judaïsme modifié et libéralisé. Certaines même sont athées. La question à poser est la suivante. Comment se fait-il que si peu d'Israéliens acceptent Jésus-Christ comme étant le véritable Messie? Pourquoi sont-ils si peu nombreux? Ceux qui tournent leur regard vers Dieu afin qu'ils accomplissent dans le futur les prophéties de l'Ancien Testament. Les Juifs eux-mêmes n'y croient pas, probablement parce qu'ils sont réalistes quant à leur histoire. Ils la connaissent mieux que nous. Tout ceci nous fait comprendre que le retour de certains Juifs en Palestine au XXe siècle ne représente pas l'accomplissement de la prophétie biblique. Les prophètes ont parlé du retour d'une portion des croyants. Lorsqu'on lit les prophéties, on voit que la pénitence était un des facteurs vitaux de la restauration des Juifs en Palestine après la captivité à Babylone. l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Néhémie, chapitre 1, verset 6. Nous t'avons offensé, et nous n'avons pas observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse. Que voici tout le contraire de ce qu'enseignent les différentes religions, c'est-à-dire la restauration nationale du peuple juif. Tout cela rencontre l'implacable vérité de la mort et de la résurrection de Christ exprimée dans l'Épître aux Éphésiens. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous, ceux que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui était deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et en anéantit par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et en les réconciliant l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Maintenant, chaque être humain, de quelque race, de quelque nationalité qu'il soit, peut venir à Jésus pour recevoir le salut de ses péchés. S'il est fidèle au Seigneur, il recevra l'ultime délivrance dans une vie éternelle au ciel. Le salut des Juifs, à la sortie d'Égypte, était national ou même politique. La délivrance par Christ s'adresse à chaque individu, pas aux nations. L'affirmation de Paul, tout Israël sera sauvé, ne concerne pas un salut national qui comprendrait le châtiment de tous les pays qui se sont opposés à Israël. Ce pardon, ce salut, cette délivrance inclut uniquement l'impiété et le péché. Israël sera sauvé exactement de la même manière que les gentils, par la puissance de Dieu dans l'Évangile. Chaque Juif peut croire, se repentir, confesser sa foi, être baptisé en Christ. Mais cette règle ne s'adresse pas qu'aux Juifs, elle s'applique à tous. Et Jésus dit dans un sens universel, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal qui vous a présenté. C'est pour parler de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous reconnais personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 21086, Toulouse Cedex. Et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398-21086, Toulouse, Cedex, France. Au revoir. À la semaine prochaine. Même heure.